Mémoire vive.
Présenté par Christelle Le Polothèque.
Et préparé par Rachel Rimer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Olivier Mannoni pour le témoignage de Moritz Scheer, « Si je survis », témoignage qu'il a traduit de l'allemand et qui a été publié avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah chez Flammarion. Moritz Scheer, c'est un juif viennois, rédacteur en chef des pages culture d'un grand quotidien, qui va quitter Vienne peu après l'Anschluss pour se réfugier à Paris. Si je survis, c'est le journal qu'il rédige entre 1942 et 1944 dans un couvent de Dordogne où il a trouvé refuge avec sa femme, à un moment même où le danger est le plus grand pour les juifs en France. Ce témoignage, il a été retrouvé très tardivement par son petit-fils dans les affaires de son propre père, et c'est ce petit-fils qui a décidé de le faire publier. Alors on est vraiment en prise directe avec les événements jour après jour, mais finalement, il parle très peu de Vienne, puisque dès mars 38, dès après l'Anschluss, il quitte l'Autriche, et en tout cas, sur les quelques pages qui lui sont consacrées, c'est même une des premières fois que je vois ça, à quel point il s'est senti, en tant que juif, complètement abandonné par les Viennois, mais très très rapidement en fait.
Oui, non seulement abandonné, mais il a été témoin d'une violence qui s'est déchaînée à une vitesse extraordinaire dès le jour de l'Anschluss.
Parce que ses amis aussi l'abandonnent, ce n'est pas seulement des scènes dans la rue.
Bien entendu, tout à fait, tout le monde lâche immédiatement. Il décrit un mélange d'arrogance qui remonte d'un pays qui tout d'un coup se sent appartenir au camp des vainqueurs ou des seigneurs et qui le considère comme un sous-homme très très rapidement. En quelques jours ça se passe et il comprend très rapidement qu'il doit partir.
Son arrivée à Paris est aussi une désillusion, alors que pour lui c'est effectivement une sorte de...
Alors il est d'abord très bien reçu par quelques amis et puis l'une de ses tâches quand il arrive à Paris est d'expliquer ce qui se passe. Tout le monde sait à peu près, mais seulement à peu près, ce qui se passe en Allemagne. On ignore encore ce qui se passe en Autriche ou bien on ne veut pas le voir. Et il va passer son temps de liberté à Paris, qui est quand même assez long puisqu'il va y rester pendant 3 ans en évoluant chez des amis qui l'aident mais qui sont de moins en moins nombreux parce qu'il l'abandonne aussi petit à petit. Il l'abandonne pas tellement par peur d'avoir un ami juif, il l'abandonne parce qu'il tente de les convaincre que quelque chose de terrible se prépare et que personne autour de lui ne veut l'écouter. Et qu'il devient finalement le radoteur de service qui va, on l'invite dans un dîner, il explique ce qui se passe en Autriche, il explique ce qu'il a vu pendant ces quelques jours ou quelques semaines où il y a été, cette violence qui est en train de se déclencher. Les Français n'ont absolument pas envie de l'entendre. Ils ne veulent pas l'écouter. Et c'est une des raisons pour lesquelles il se retrouve assez rapidement très solitaire. D'autant plus qu'il n'a que peu de relations avec les 1000 juifs à Paris. Lui, c'est un intellectuel, il se considère comme tel. C'est un Autrichien qui arrive en France et qui veut renouer avec cette culture qu'il adore et dont il a lu énormément de livres. Et il espère revenir à cette culture-là. Ça m'a fait penser un tout petit peu à cet amour fou de Marcel Reich-Ranitzky. Vous savez, celui qu'on appelait le pape de la littérature allemande, qui est resté en Allemagne aussi longtemps que possible parce qu'il se raccrochait à l'idée qu'un pays qui avait une littérature pareille ne pouvait pas sombrer. C'est un peu le même processus. Il vient voir des intellectuels français en pensant qu'ils vont comprendre, qu'ils vont l'aider. Il n'y arrive pas.
Il décrit en fait, c'est ça, dans un premier temps, une sorte de frivolité imperturbable. Il parle notamment des collections de mode ou de haute couture où on coud des poches assez larges pour... Enfin voilà, il montre un pays qui ne veut pas voir
qui reste pour ce qu'il décrit, qui est sa vision. Il y a un pays qui reste totalement dans le superficiel, dans la futilité, dans l'insouciance, et une insouciance volontaire acharnée de ne pas voir ce qui risque de lui arriver.
Et très vite, puisque évidemment il y a la déclaration de guerre et puis donc très rapidement en 1940 l'armistice, et il consacre très tôt un chapitre à la collaboration.
Oui, parce qu'il voit autour de lui comment ça se passe. Notamment, il voit les gens qu'il connaît, qui peu à peu, pour des raisons professionnelles, pour garder un poste ou pour en avoir un meilleur, basculent dans le camp de ce qui est à l'époque considéré comme le camp des bons, c'est-à-dire le camp des vainqueurs, ceux qui vont effectivement collaborer. Le terme, il l'emploie à plusieurs reprises. Il le décrit surtout très en détail, la manière dont ça se passe, la manière dont des intellectuels qu'il connaissait, qui étaient des gens intègres, etc., se mettent à passé idéologiquement dans le camp du nazisme. Il parle en particulier d'un critique de théâtre qu'il connaît très très bien, qui était un très grand critique et un homme tout à fait intègre, qui peu à peu bascule et se met à faire des articles antisémites, qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui, hein, qui sont facilement accessibles sur Internet, où on voit comment cet homme, qui était un intellectuel renommé, réputé, intègre, bascule dans l'abjection la plus totale.
Le 12 mai 1941, il est convoqué au commissariat de police de la rue Lecourbe et il va être envoyé au camp de Beaune-la-Rolande. C'est une incarcération à laquelle il va consacrer finalement deux chapitres, l'un en relatant précisément ce qui va se passer à ce moment-là, et puis un autre tout à la fin du livre.
Oui, ce sont deux très grands passages qu'il raconte. Il est confronté pour la première fois à un pouvoir qui a basculé dans le camp de l'ennemi. Ce sont en l'occurrence, pour ce qui concerne le premier passage, des policiers parisiens, qui, non content d'exécuter les ordres, se montrent injurieux, humiliants envers leurs prisonniers. Il est convoqué, simplement, il ne sait absolument pas ce qui va lui arriver, il est convoqué pour une affaire le concernant. C'est un policier qui vient lui déposer ça, qui lui dit « voilà, vous devez être au commissariat demain matin ». Il ne sait pas ce qui se passe, sa femme n'a pas le droit de le suivre, donc il y va seul. Elle vient quand même, elle va finir par le rejoindre, et il apprend qu'on lui a demandé d'apporter des affaires. Et en fait, cette convocation est une convocation de déportation. Il va être emmené dans un camp provisoire qui se trouve donc à Beaune-la-Rolande. Sa femme n'est pratiquement pas informé de l'endroit où il va. Un policier qui a encore un reste de conscience va lui dire exactement ce qui se passe et où elle va pouvoir le trouver. Donc il reste quand même des consciences claires à l'époque. C'est aussi un des mérites du livre, c'est de montrer que l'abjection n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, il va rencontrer des gens extraordinaires, des gens hors du commun, qui vont l'aider et l'aider à survivre, hein, puisque c'est le titre du livre. Et c'est grâce à eux aussi qu'il s'en est sorti. Donc il y a d'un côté les policiers abjects qui les traitent comme pire que des chiens, et de l'autre côté des gens qui savent ce qui se passe, qui veulent donner aux gens le maximum de chances de s'en sortir, même s'ils savent qu'ils ne peuvent rien directement pour eux. Voilà. Il part donc en car dans une scène absolument terrible où sa femme le voit partir. Hein, et il dit dans le livre, il a une phrase extraordinaire où il dit qu'il sa femme le regarde partir. Il dit, c'est la seule chose que j'oublierai jamais de ma vie, c'est ce regard-là. Le moment où le car s'éloigne et où sa femme le voit partir, en sachant vaguement où il va et en sachant absolument pas s'il va revenir. Tout ça est encore très flou. On ne sait pas exactement ce qui se passe en France. On ne sait pas où vont les Juifs qui sont chassés de leur appartement, qui sont convoqués comme lui il a été. Surtout, on ne sait pas pour quelle raison. Qui les choisit, pourquoi, il n'en sait rien. Et donc après, il se retrouve dans ce camp, qui est un camp d'internement, on pourrait dire ça comme ça, ou un camp de rétention, avec toute une communauté de Juifs étrangers, pour l'essentiel, dont il fait des portraits absolument bouleversants, des gens qui ont un courage extraordinaire, une entraide, une solidarité extraordinaire, qui contraste totalement avec ce qu'il a vécu à Paris, où tout le monde sait ce qui risque de se passer, tout le monde sait qu'il y a la mort qui attend. On est en 41, c'est-à-dire que le grand massacre a commencé, les rumeurs commencent à courir. Et là, il développe dans ce camp, il développe avec ses amis un système de solidarité qui leur permet de faire passer des messages, qui leur permet d'être informés de ce qui se passe. Il y a une scène absolument extraordinaire où un matin, il voit des silhouettes au loin. Les gendarmes se postent autour du camp, devant ces silhouettes, et ce sont les femmes de ces hommes qui viennent les voir, qui sont dans les champs, à distance, parce qu'elles ne savent pas si on va leur tirer dessus ou pas. Il ne sait pas si sa femme est dedans, et d'ailleurs il dit qu'elle y est. Il le saura bien après. Ce sont des scènes absolument poignantes et qui donnent une réalité de ce qu'on connaît, puisqu'on sait que tout ça a existé. On connaît évidemment Drancy, on connaît ses départs, ses camps qui ont servi de tampon un petit peu avant le départ vers les camps d'extermination. Mais on le voit là d'une manière tout à fait concrète. Et on voit aussi à quel point la solidarité de ces internés a été immense.
Alors son destin aurait pu être scellé, mais il est libéré presque contre toute attente avec un groupe de malades de plus de 55 ans, puisqu'il est malade du cœur. Il retrouve alors à Paris sa femme et Slava, donc une personne qui était à leur service à Vienne et qui a décidé.
Voilà, qui a décidé de les rejoindre. C'est aussi une très belle histoire. Ouais. Slava n'est pas juive, donc elle n'est pas directement menacée en Autriche, pour autant que les gens aient pu ne pas être menacés du tout à l'époque. Le régime nazi en Autriche était un régime antisémite, mais aussi totalitaire. Et les deux joints faisaient courir des risques à tout le monde. Slava les rejoint à Paris et va les rester avec eux jusqu'au bout, avec un courage extraordinaire, en manquant se sacrifier d'ailleurs à un moment. Ils forment une espèce de communauté comme ça, tout à fait proche, unie. Chaya est effectivement très malade. Il est malade du cœur gravement. Il risque de mourir à tout moment. Il le sait. Et le traitement, évidemment, qu'on lui réserve au camp et ailleurs n'améliore pas les choses.
Oui, le médecin lui dit de surtout éviter toutes les émotions fortes.
Voilà.
Et du coup, lui, après cette première arrestation, il sait qu'il faut partir au plus vite, qu'il faut passer en zone libre. Et là, c'est tout un périple. Et puis, donc, pour rejoindre la zone libre, pour rejoindre l'Isère, ils vont essayer de passer en Suisse. Enfin, là, il décrit, c'est assez terrifiant aussi, le nombre de personnes qui vont croiser, des passeurs qui vont les laisser tomber au milieu du chemin. Enfin, des gendarmes français qui viennent les cueillir.
On est à mi-chemin entre la police d'un état légal et la pègre. Et on ne sait jamais, à aucun moment, à qui on s'adresse. Il y a en particulier un mystérieux personnage qui va officiellement l'aider à passer, qui a une sorte d'adjointe tout à fait interlope, on ne sait absolument pas qui c'est, qui va leur servir d'intermédiaire. Il lui verse une somme d'argent tout à fait importante, je crois que c'est 60 000 francs, si je me rappelle bien, pour assurer le passage à bord d'un train, dans lequel ce policier, qui est effectivement policier, mais
ça,
qui est devenu...
Ça, c'est pour aller en Suisse, une fois qu'ils sont en zone libre,
absolument. Oui. Et donc, ils vont tenter à plusieurs reprises de passer sans y arriver. Ils se retrouvent à chaque fois à Paris, dans des conditions de plus en plus difficiles, avec de moins en moins d'argent. Ils se retrouvent dans une misère noire, avec les rafles qui n'arrêtent plus, auxquelles ils échappent parfois par miracle.
Ils vont être... arrêtés une seconde fois, tous ensemble, donc cette fois avec sa femme et Slava, et envoyés dans la caserne de Bizanet à Grenoble. Là aussi, ils vont réussir à être libérés, encore une fois, grâce à
un médecin, en l'occurrence, l'épouse, alors il décrit tout ça extrêmement précisément, il décrit aussi le courage de sa femme, qui l'accompagne d'un bout à l'autre avec un courage absolument extraordinaire, et c'est grâce à son épouse qui le traîne littéralement devant le médecin, qui va pouvoir sortir. Ils sont en compagnie d'une vieille dame qu'ils connaissent, qui va tenter la même chose, qui elle n'y arrivera pas. Mais le médecin lui fait un certificat qui lui permet de sortir effectivement. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre ce deuxième passeur qui va tenter de qui va leur promettre un passage en Suisse. Oui.
Et les abandonner.
Au milieu du gué dans une gare où a lieu un contrôle de la gendarmerie française, auquel ils échappent absolument par miracle et par intelligence aussi, parce que Schayer est un homme rusé. C'est un journaliste. Hein. Donc il regarde le monde autour de lui avec une précision extrême. C'est aussi ça qui le sauve. Mais il manque, là encore, être coincé grâce à une serveuse de bar qui leur interdit le passage à une porte de secours qu'ils pourraient emprunter vers la liberté. Donc ils échappent à ça, là encore, d'extrême urgence. Ils se retrouvent logés dans des conditions extrêmement précaires. Et voilà.
C'est la famille Rispal qui joue un rôle très important à laquelle ils seront liés jusqu'à la fin de leur vie, je crois, qui va trouver la solution, en fait.
Tout à fait. Alors, les Rispal sont des résistants authentiques. Si je me rappelle bien, le père, en tout cas, est très lié aux communistes. Et c'est en tout cas un chef de réseau qui connaît énormément de monde et qui décide de les prendre sous son aile. Au prix de risques personnels considérables, et qui va réussir à finalement leur trouver un abri au bout du compte dans un couvent de franciscaines. Près de Périgueux, dans une région qui est un des nids de la résistance, parce qu'autant il montre à quel point à Paris les gens ont pu être abjects, autant il montre aussi quelle solidarité il y avait dans cette région et quel courage ont déployé les gens qui y vivaient et qui résistaient. Il y avait des réseaux extrêmement denses qui aidaient les fuyards. Et là, en l'occurrence, il les amène donc dans ce couvent qui est dirigé d'une main de faire par une mère supérieure. C'est un couvent, là aussi c'est extrêmement riche et intéressant, c'est un couvent où l'on abrite des femmes qui sont toutes handicapées, et souvent handicapées mentales, donc l'altérité complète. Elles sont à terme, elles aussi, menacées, puisque les handicapés mentaux faisaient partie de la liste des gens à exterminer, et la mère supérieure le sait. Et elle les considère finalement comme des pensionnaires supplémentaires. Elle va leur accorder une chambre à eux, cachée, les recevoir avec une gentillesse et un courage extrême. Elle sait pertinemment que si on les trouve là, c'est tout le couvent qui est menacé, toutes ces pensionnaires, et ils vont rester là pendant jusqu'à la fin de la guerre. Avec les Rispal comme relais qui leur offre un appareil de radio qui devient leur contact avec le monde, qui cache très soigneusement des alertes régulières, des alertes qui deviennent de plus en plus sérieuses au fur et à mesure que les Allemands se rapprochent. Ils finissent par se cacher dans un trou que deux religieuses lui indiquent derrière une petite chapelle où ils vont se terrer.
Une chapelle funéraire.
Oui, tout à fait. Mais cette chapelle funéraire, pour eux, c'est la lumière, c'est la liberté. C'est-à-dire, quand ils découvrent ce trou, ils vont pouvoir se cacher, c'est tout à fait extraordinaire. Mais ils n'y sont pas tout le temps, ils y sont en cas d'alerte, et autrement, ils ont leur chambre à eux, somptueusement aménagée spécialement pour eux par les religieuses.
Ils dépeignent longuement hein, ce couvent. Il faut dire qu'il va y passer deux ans, entre 1942 et 1944. C'est là qu'il va rédiger principalement son journal, mais il décrit les nonnes, donc, hein, qui vont leur sauver la vie, mais aussi ces pensionnaires. C'est-à-dire, quand même, ils vont vivre cachés pendant deux ans dans un environnement très, très, très particulier.
Extrêmement spécial. Ouais. C'est un. Il est très peu religieux, Shayer. Ça ne l'intéresse pas. Mais il découvre là le contraire absolu de ce qu'il a vécu à Paris. D'un côté, le superficiel. De l'autre, la simplicité totale, au sens où on dit heureux les simples en esprit. C'est-à-dire des gens qui, parfois, n'ont même plus de contact réel avec le monde. Il est dans un univers qui est totalement irréel. Il a un très, très beau passage où les nonnes doivent, pour circuler, se faire des cartes d'identité. Et l'une d'entre elles, qui visiblement souffre de débilité au sens médical du terme, et qui est une pensionnaire, oui, tout à fait. Oui, c'est des pensionnaires que je parle, pardon. L'une d'entre elles est d'une laideur épouvantable, et de toute façon, on ne peut pas se promener, donc elle n'a pas besoin. Elle lui demande de faire une carte d'identité, et l'épouse de Shayer découpe dans une revue illustrée la photo d'une star de l'époque, la colle sur sa photo, et cette femme est heureuse comme elle ne l'a jamais été en voyant sa quartité, elle dit. Elle arrive à peine à prononcer le mot, mais là, ces passages, ça a quelque chose de totalement irréel, mais pas plus irréel que ce qu'il a vécu à Paris. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une société qui refuse totalement de voir ce qui se passe et qui ensuite se vautre dans la collaboration et dans l'ignoble. Et puis cette société qui l'accueille à bras ouverts et qui, elle, coupée du monde et d'une simplicité absolue.
Oui, c'est un récit très fort et vous l'avez dit, j'espère que les auditeurs l'auront compris, très très diversifié en fait, hein, véritablement, avec à la fois ces passages très vindicatifs, hein, on peut le dire, par rapport à toute cette collaboration, et puis ces rencontres qu'il va faire et qui donnent une humanité très aussi très intense à ce texte.
Oui.
Je vous remercie beaucoup, Olivier Manoni. Je rappelle donc « Si je survis » de Moritz Shayer, ce témoignage que vous avez traduit de l'allemand est publié aux éditions Flammarion avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoire-vive au pluriel.net.